Oui, bonjour Christophe, c'est Véro. Ça va être très court. Donc, c'est à propos de l'émission sur et avec Noam Chomsky, Normand et tout ça. C'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur. Oh, c'est du miel pour les oreilles. Merci.
Salut Daniel, j'écoute ton émission depuis de nombreuses années et avec le temps, ça avait fini par un peu m'agacer. Est-ce que j'ai viré un peu à droite, c'est possible. Mais en tout cas, ton émission d'aujourd'hui sur Noam Chomsky m'a vraiment réconcilié avec là-bas si j'y suis et j'attends avec impatience la suite. Merci. Bye.
Il faudrait que tu nous redonnes les coordonnées des livres de ce Québécois là. Qui nous explique comment se méfier de la propagande. Parce que on pourra, avec ce livre, on pourra utiliser ces techniques pour se méfier de ta propagande à toi. Parce que moi, personnellement, je connais que ta propagande à toi, tu vois, c'est ça le problème. Naturellement, pour toi, la propagande, si je te comprends bien, la propagande, c'est toujours la propagande des autres, c'est-à-dire la propagande de droite. Toi, naturellement, tu dis la vraie vérité, en fait, c'est ça. C'est toi, c'est la vraie vérité.
Merci vraiment à là-bas de nous faire prendre de la hauteur. Effectivement, au milieu de ces grands vents, loin de l'air confiné des salons parisiens qui ont boycotté Chomsky pendant si longtemps, et oui, ces salons qui nous divulguent leur propagande, leur gang, qui voilent la vérité, alors que la vérité, finalement, si on la cherche, on la trouve. Chomsky, c'est ce qu'il faisait, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il s'intéresse aux faits, finalement. Il essaie de reconstituer les faits. Alors quand on l'accuse d'être un apologiste des Khmers rouges, tout ça me fait bien rigoler. Moi, j'ai étudié les Khmers rouges, comme on dit, entre guillemets. Il n'a pas fait du tout de travail d'apologie. Ce qu'il a fait, c'est simplement essayer de vérifier un certain nombre de citations, par exemple, qu'on prêtait à ses dirigeants. Hein, combien de faussetés ont été propagées là-dessus, évidemment, comme sur plein d'autres sujets. Et ce travail, en fait, de reconstitution des faits, bon, il le fait pas toujours, il le laisse effectivement à d'autres. C'est-à-dire qu'il ne, hein, il ne fixe pas la vérité une bonne fois pour toutes. Hein, il encourage des chercheurs à fouiller, à gravir des routes un petit peu escarpées, un peu difficiles, surmonter nombre d'obstacles. Hein, la vérité, on ne peut pas la connaître une bonne fois pour toutes. Et effectivement, il y a des cadres de réflexion qui enserrent cette vérité. Sur le Cambodge, ce qu'il faut rappeler, c'est que Chomsky voulait éviter un nouveau bombardement hein, du Cambodge. C'était le souhait de certains sénateurs républicains américains. Alors il faut savoir que le Cambodge avait déjà reçu un gros paquet de bombes aveugles pendant 8 ans. Et aux dernières nouvelles, l'évaluation du tonnage équivaut à 15 à 25 fois le nombre de bombes lâchées sur le Japon. Soit un total de 2 750 000 tonnes de bombes. C'est en allant voir sur le site ZNet, ZMag, qu'on peut lire ces dernières évaluations. En fait, c'est 5 fois plus que ce qu'on pensait auparavant, grâce à Clinton qui a ouvert quelques archives. Voilà, au revoir.
Voilà, ces petits messages, brefs, mais qui en disent long sur la façon dont Noam Chomsky est perçu en France. Cet éditeur qui visiblement suit de près et les écrits, les bouquins et ce qui se passe autour dans la galaxie Chomsky, puisqu'il est branché sur Zinet, sur ce site Zinet. Et puis des auditeurs découvrent les contresens sur la propagande. C'est pas une affaire de propagande de gauche ou de droite, c'est le phénomène même de la propagande dans des pays démocratiques, le lavage de cerveau dans la liberté dont il a été question hier dans cette première émission avec donc Noam Chomsky, le linguiste américain, je rappelle en quelques mots qu'il est, bientôt 80 ans, 79 ans, le Einstein de la linguistique, comme on a pu l'appeler, mais qui est aussi, il n'y a pas de mais forcément, et qui est aussi un homme engagé, un activiste depuis fort longtemps, et on va justement parler un peu de ses débuts dans l'agitation et la subversion vis-à-vis de la politique de son pays, puisque dès 1964, il s'est engagé contre la guerre au Vietnam. On va évoquer cela aujourd'hui avec lui, mais pas seulement avec lui, évidemment, qu'il faut faire des liens avec ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Et d'ailleurs, on n'ira pas tout à fait aux États-Unis, on ira à Toronto. Pourquoi ? Parce que certains Américains sont à Toronto, les déserteurs, ceux qui désertent l'armée américaine et, en Irak. Et on va en rencontrer un ou deux à Toronto. Et puis, on va rencontrer un personnage tout à fait singulier qui s'appelle Andrew Bacevich, qui est professeur d'histoire et de relations internationales à Boston University, qui n'a pas du tout le même parcours que Noam Chomsky, puisque Andrew Bacevich est un conservateur, est un républicain, est un homme qui a voté pour Bush, est un ancien militaire, il était au Vietnam, il était officier colonel au Vietnam, alors que Chomsky, lui, militait pour la paix contre la guerre au Vietnam. Et vous allez voir que les deux parcours se rejoignent à bien des égards. Voilà, c'est là-bas si j'y suis, Chomsky et compagnie.
Tonight I'll be talking with a man who has been thinking about how we can see the developing line. He says that propaganda is to democracy what violence is to a dictatorship.
First breaking news on Fox News Live right now.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Guy Ventil là-bas, si j'y suis, viens, allons à la pêche, petit verre, allons à la pêche.
Je m'appelle Noam Chomsky, j'enseigne au MIT et je milite fortement contre la guerre depuis quelques années.
For many of them, the choice is between Walmart, McDonald's and the military.
Et pour la plupart d'entre eux, le choix professionnel de carrière qu'ils ont, c'est McDonald's, Walmart ou l'armée.
J'ai commencé par écrire, donner des conférences, parler aux membres du Congrès, et puis petit à petit, j'étais de plus en plus engagé dans des activités de résistance. Je crois que la meilleure forme d'action politique qui s'offre en ce moment aux citoyens conscientisés, c'est une action qui implique la résistance directe, le refus de prendre part à des crimes de guerre, faire monter le coût de l'agression américaine outre-mer, la non-participation et l'appui aux dissidents, surtout ceux qui refusent de servir dans l'armée.
La voix de Noam Chomsky dans ce documentaire La fabrique du consentement, évoquant son engagement au début des années 60. Il est né en 1928. Il a, par une thèse en linguistique, fait opérer une véritable révolution dans cette science de la linguistique. Il est devenu enseignant au MIT, au Massachusetts Institute of Technology, où nous le rencontrons à Boston, où il est toujours là, dans son bureau, avec ce portrait géant de Bertrand Russell derrière lui, et au pied du portrait de Bertrand Russell, une petite poupée en chiffon qui évoque le sous-commandant Marcos. C'était en 94, lors de la, vous vous souvenez, l'affaire de l'EZLN, le sous-commandant Marcos, etc. Ben voilà, c'est un petit souvenir qui est là à côté du portrait géant de Bertrand Russell. C'est simplement des petites choses, mais qui en disent assez long sur la filiation, sur les références intellectuelles, historiques et actuelles aussi de Chomsky, donc Noam Chomsky, qui nous reçoit dans son bureau au MIT. Et on va évoquer avec lui, évidemment, c'est un de ses grands thèmes permanents de travail, d'analyse, c'est la politique extérieure de son pays, les États-Unis. Hier, on a évoqué son travail avec Ed Herman sur la propagande. Je vous conseille d'ailleurs un petit ouvrage qui s'appelle Propaganda. C'est une collection d'Angers Public. C'est un livre assez bref mais qui résume assez bien les idées de Chomsky sur la propagande. Là, on va plutôt évoquer la politique extérieure des États-Unis actuellement. Chomsky a beaucoup travaillé sur le 11 septembre, sur les suites et conséquences du 11 septembre à l'intérieur comme à l'extérieur des États-Unis. C'est un travail permanent. Tous les 3-4 jours, Chomsky donne un article pour ce site qui s'appelle Zinet ou pour différentes revues. Il fait des conférences en permanence et il a cette capacité qui étonne tout le monde, je l'ai dit hier, mais qui étonne ses confrères, amusés souvent par son extraordinaire mémoire, sa capacité à digérer, on peut dire, des informations très différentes, très hétéroclites, à en faire la synthèse et à partir de ces références, de ces faits toujours qui servent de base à sa réflexion, à ses analyses, produire cette critique très, très articulée, très architecturée et parfois très cinglante de la politique de son pays. C'est jusqu'à 16h, Chomsky et compagnie.
Fire and forget.
LendingTree.com is the only place where banks compete over your mortgage. Then you get up to 4 real offers to choose from within minutes. So do better and choose from low rates. Call LendingTree now at 1-800-555-TREE. That's 1-800-555-TREE.
Chomsky pense que nous pouvons changer le cours et l'ordre des choses et qu'il existe une sorte de maintien de l'ordre des choses et qu'il faut le mettre à nu car cet ordre des choses profite à une minorité au détriment du plus grand nombre. Il existe une minorité cultivée, éclairée, qui détient nombre de pouvoirs, des pouvoirs symboliques, des pouvoirs militaires, des pouvoirs financiers, et qui font tout pour se maintenir là où ils sont. Et c'est les mécanismes qui maintiennent cet ordre social, cet ordre mondial, que Chomsky et ceux qui travaillent dans cet esprit-là tentent de mettre à nu. C'est pas nouveau. Depuis bien longtemps, des intellectuels, des chercheurs, des journalistes, tout ce que vous voudrez, s'efforcent de mettre à jour un certain nombre de mécanismes de l'oppression. Chomsky le fait à sa façon, avec ses références, avec son langage qui est toujours très simple, très clair. Il essaye d'être le plus simple et le plus clair possible. Et d'ailleurs, il a été récompensé à deux reprises d'un prix qui s'appelle quelque chose comme le prix George Orwell pour la clarté de l'expression dans le débat public. Donc il s'agit de pratiquer une langue et un langage le plus clair et le plus direct possible. Beaucoup de questions évidemment à poser à Noam Chomsky. Évidemment, une question capitale, c'est celle de l'engagement des États-Unis dans des guerres comme en Afghanistan et en Irak, et en se rappelant bien sûr que Noam Chomsky, dans sa jeunesse, au début des années 60, a été très actif dans les mouvements pacifistes contre la guerre au Vietnam. Vous avez été un militant contre la guerre du Vietnam dans votre jeunesse. Et aujourd'hui, à quoi ressemble l'opposition à la guerre en Irak? On n'a pas tellement de manifestations contre cette guerre. Qu'en est-il?
Contrary to what people say, there is much more protest today against the Iraq war than there was against the Vietnam war at a comparable stage of the war.
Contrairement à ce qu'on dit aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'opposition à la guerre en Irak qu'il n'y a eu à la guerre au Vietnam, à peu près au même niveau d'engagement militaire.
See, that impression results from the lack of protest against the Vietnam War. When there were 150,000 American troops in South Vietnam, like there are in Iraq today, there was almost no protest.
Mais quand il y avait 150 000 soldats dans le sud Vietnam, ce qui est à peu près le nombre de soldats qu'il y a en ce moment en Irak, il n'y avait pas de manifestation.
I mean, even when the United States... By 1965, the United States had almost destroyed South Vietnam.
En 1965, quand les États-Unis avaient presque complètement détruit le Vietnam du Sud,
and they were extending the war to the north.
Et étendaient la guerre au nord,
and there was still almost no protest.
Et il n'y avait toujours pas de manifestation.
I mean, it wasn't until there were half a million troops in South Vietnam, and the war was expanding all over Indochina, with real international implications, that you began to get really large-scale protests.
Les grandes manifestations n'ont commencé que quand il y avait plus de 500 000 soldats sur place au sud de Vietnam et que le conflit s'était en train de s'étendre non seulement dans toute l'Indochine mais aussi avec des conséquences internationales.
I mean, the war in Iraq is bad enough, but the war in Vietnam was far worse.
La guerre en Irak est terrible, mais la guerre au Vietnam à l'époque était bien pire encore.
And take say France, when France was trying to reconquer its former colony in the early 1950s, how much protest was there in France?
Prenons aussi l'exemple de la France. Quand la France essayait de récupérer ses colonies au début des années 50, combien il y a eu de manifestations en France?
Nothing. I mean, the Iraq war is the first time in Western history when a war has been massively protested before it was launched.
La guerre en Irak est le premier cas, en tout cas le principal exemple dans l'histoire contemporaine, où une guerre a été lancée alors même que toute la population était contre.
And that makes a difference.
Et ça fait une très grande
différence.
C'est pas merveilleux, mais c'est quand même un progrès.
Je voudrais qu'on parle de la politique extérieure des États-Unis et qu'on parle notamment d'Irak. Vous avez dit que l'administration Bush est la plus dangereuse de l'histoire et qu'elle mène le monde à sa destruction.
I would not call George Bush the most dangerous person in history or even the most dangerous president in history.
Je dirais pas que George Bush est la plus dangereuse personne ou la plus dangereuse présidente de l'histoire.
Doesn't compare with the great mass murderers of history.
On peut pas le comparer avec les grands meurtriers de l'histoire.
The Iraq war is a major atrocity, but it's nowhere near as bad as the Indochina wars.
La guerre en Irak est une atrocité, mais elle n'approche pas à quel point était terrible la guerre d'Indochine.
In the Indochina wars, maybe 3 or 4 million people were killed. The three countries were ruined.
Les guerres d'Indochine ont touché trois pays, ont fait 3 à 4 millions de morts.
We've only learned in the last months that just Cambodia alone one small country. The bombing of Cambodia was greater than the total Allied bombing in all of World War II in rural Cambodia.
Et on a appris il y a seulement quelques mois que rien que pour le Cambodge, pour les zones rurales du Cambodge, les bombardements qui ont été concentrés sur ce pays ont été plus importants, plus massifs que l'ensemble des bombardements alliés pendant la Seconde Guerre mondiale.
And in fact, it, during the period of this intensive bombing, the Khmer Rouge grew from a few thousand guerrillas to a huge peasant movement of hundreds of thousands of peasants who were mobilized, enraged peasants mobilized by the intensity of the bombing.
Et c'est pendant cette période-là, pendant ces bombardements, que les Khmer Rouge, qui était à l'origine un mouvement de militants assez restreint, s'est accru et a grandi au point de devenir de plusieurs centaines de milliers de paysans en colère, enragés par ces bombardements.
And we know what happened later.
Et on sait ce qui s'est passé après avec les Khmer Rouge.
But you know, terrible as the Iraq War is, it's not at that scale.
Mais voilà, aussi terrible que puisse être la guerre en Irak, elle n'atteint pas cette échelle-là.
And that was mostly carried out by liberal presidents.
Et cette guerre, les guerres de Chine ont été menées essentiellement par des présidents de gauche.
Je voulais correct. I wouldn't call them the gauche.
Yeah, but the liberal is
well,
des présidents
sort of
libéraux.
I don't know what word to use. But
center left.
Center left.
Voilà, yeah. On ne pourrait pas dire que c'est des gens de gauche, c'est des gens de centre gauche.
Dialogue américain, la marque du Vietnam. En ce début de mai 75, après de longues années d'un règne sans partage sur une moitié du monde, les États-Unis connaissent la première défaite de leur histoire. Un ordre règne à Saigon, à Phnom Penh, à Vientiane, qui n'est pas le leur. Pour les militants du mouvement anti-guerre, qui mobilisait en 68 des millions de manifestants dans les rues américaines en de longues marches de protestation, cette échéance est une victoire. Victoire que fête le 11 mai à Central Park, en plein cœur de New York, 35 000 personnes rassemblées autour de John Baez par la célébration War is Over.
We're here today to rejoice. Victory for the Vietnamese people, the Cambodian people, and the American people. This is a day of celebration and joy.
Everybody, you'll smile.
Je ne sais pas si c'est avec cet esprit de 68 que le nouveau président de notre pays nous invite à rompre. Mais en tout cas, voilà, c'est une manifestation, celle-ci, en 1975, telle que racontée dans cette émission de Roger Pilaudin sur France Culture à l'époque. Nous l'avons dit, il y a très très peu d'archives dans Radio France concernant des interventions de Noam Chomsky. Au total, 4 ou 5, dont celle que nous allons entendre. Chomsky était-il à Central Park ce jour-là ? On ne sait rien. En tout cas, il y était peut-être, s'il y était, avec Howard Zinn. Howard Zinn, vous vous souvenez, c'est cet historien qui est un ami assez proche, au moins dans l'esprit, de Zinn. De Chomsky. On l'avait reçu dans la base où j'y suis pour une histoire populaire des États-Unis, et ce sont des hommes qui sont assez proches dans leur façon de penser, de voir et d'exercer leur critique. Alors voilà ce que ça donnait dans cette émission donc de Roger Pilaudin en 1976.
Roger Pilaudin et André Brigaud lisent maintenant la suite de la traduction du dialogue Chomsky-Zinn. Howard Zinn.
Ce que bon nombre d'Américains auront appris pendant cette guerre, c'est qu'ils ne pouvaient compter ni sur le gouvernement, ni sur les représentants au Congrès, ni sur la presse pour leur dire la vérité à propos de cette guerre. Car ce sont les dirigeants qui ont véritablement accès aux moyens d'information. Ce sont eux qui font les conférences de presse. C'est Kennedy qui fait les discours. C'est le New York Times qui publie les éditoriaux, etc. Et cela crée une uniformité de pensée contre laquelle il est difficile de réagir. Cependant, au bout d'un certain temps, de larges parties de l'opinion américaine ont commencé à réaliser qu'on leur mentait.
Noam Chomsky.
C'est en quoi les années 60 furent remarquables. C'est que dans une société comme la nôtre, une société dépolitisée, dans laquelle les gens n'ont ni les moyens ni l'occasion de faire une action politique, des mouvements spontanés sont nés qui échappaient au contrôle des dirigeants. Ce n'est qu'un souvenir, car aujourd'hui, les dirigeants politiques, l'intelligentsia, la presse, les écoles et les universités sont en train de retrouver leur soumission traditionnelle à l'idéologie de l'État.
Noam Chomsky.
Il est presque certain que les intellectuels modérés vont parvenir à limiter le débat à ces questions mesquines et insignifiantes, les questions qui divisent les colombes et les faucons, et qu'ils ne toucheront donc pas à la supposition essentielle. Les USA sont l'unique pouvoir au monde qui a le droit de recourir à la force quand il le désire, et deuxièmement, quand les États-Unis recourent, c'est dans un but bénévole. Mais quand les autres pouvoirs agissent ainsi, bien sûr, c'est par cupidité, en vue de gains matériels. Nous, nous agissons par amour débordant pour l'humanité, et bien que nous fassions des erreurs, que nous soyons maladroits, on ne peut pas appliquer à notre cas les mêmes critères intellectuels et moraux que l'on applique au reste du monde. C'est cela, l'idéologie des intellectuels. Et comme ce sont eux qui contrôlent les moyens d'information, jusqu'à quel point le cynisme de la population pourra-t-il se maintenir ?
Pacifiste américain dans l'issue de la guerre des États-Unis au Vietnam. Difficile toujours de mesurer ce genre de choses, mais au moins le mérite bien sûr est d'avoir limité la propagande de guerre, au moins d'avoir sauvé quelque chose de la dignité et de quelques valeurs démocratiques américaines, et puis une certaine fierté patriotique, la fameuse fierté patriotique américaine. Or, à l'époque, les pacifistes étaient réprimés dans les rues lors des manifs et réprimés aussi dans les grands médias qui les assimilaient à des communistes, à des extrémistes, à des terroristes, etc. Et pendant que Chomsky et son camarade Zinn manifestaient contre la guerre, Andriou la faisait. Andriou Bacevich, il était officier, il était colonel dans l'armée américaine au Vietnam, et nous le rencontrons aujourd'hui à Boston University. Il est prof d'histoire de relations internationales, spécialisé en histoire politique américaine pour les questions de sécurité. Il était au Vietnam de 1969 à 1992. Donc il sait de quoi il parle. C'est un conservateur et il nous attend dans son bureau. C'est un type robuste, clair, direct et très sympathique.
Andrew Bacevich. I'm a professor of history and international relations at Boston University.
Je suis professeur d'histoire et de relations internationales à l'Université de Boston.
I specialize in contemporary U.S. foreign policy and with an emphasis on national security policy.
Et je me concentre sur la politique internationale américaine en concentrant sur les questions de sécurité intérieure.
Vous étiez militaire. Yes, I was a soldier. I graduated from the U.S. Military Academy and got a commission in 1969, and then served in the U.S. Army until 1992. I retired at that time. I was a colonel in the Army.
Oui, j'étais colonel jusqu'en 1992, et j'ai fait mes études à l'Académie militaire où j'ai commencé à être soldat de métier en 1969.
Vous dites, à l'époque, au fond, tout était simple. On avait une mission en tant que militaire qui était, bon, la lutte contre le communisme. Les choses étaient assez simples dans le cadre de cette guerre froide. Est-ce que vous pensez que l'Amérique était à sa place au Vietnam, puisque vous étiez un officier de l'armée américaine au Vietnam? Est-ce que, à l'époque, jeune homme que vous étiez, vous pensiez que vous étiez bien dans un rôle, moralement?
Well. That was in my Vietnam service was in 1970 to 1971, so it was towards the end of the war.
Moi, j'étais au Vietnam dans les années 70-71, c'était vers la fin du conflit.
It was already at the time when the war clearly was not going to be won.
On savait déjà à l'époque clairement que la guerre n'allait pas être gagnée.
But again, at the time I was not politically, I mean, I'm almost embarrassed to say it.
Je suis presque gêné de le dire, mais.
But I was not really politically aware.
J'étais pas très éveillé politiquement.
I mean, I understood. That this country was deeply divided.
Je comprenais que ce pays était très divisé. Notre pays était très divisé sur cette question de la guerre.
But I think, at least, perhaps subconsciously, this is a sort of a cowardly explanation. I think subconsciously, I said, for me to confront the debate over the Vietnam War and choose sides would complicate my life as a young soldier tremendously.
C'est peut-être une réponse un peu lâche que je vais vous faire, mais à moi, d'une manière presque inconsciente, de me confronter à ce problème-là, de faire face à cette question de cette guerre, ça aurait été pour moi, en tant que soldat, une espèce de cassure à l'intérieur. Ça serait
it was far easier for me to...
Ça m'aurait compliqué les choses, alors que là, c'est beaucoup plus simple pour moi de ne pas me poser trop de questions et d'accomplir mon devoir aussi bien que je pouvais. Et de rentrer à la maison une fois que j'aurai accompli mon service.
Meaning, I think that the Cold War really defined my worldview.
C'est-à-dire que ma vision des choses était complètement calquée sur la grille de lecture de la guerre froide.
I'm not defending that.
C'est pas que je prenne des. Je pense que c'est une erreur.
That was the way I saw the world back in the 1970s and 1980s.
Mais c'est comme ça que je voyais le monde dans les années 70 et 80.
Comment vous vous situez politiquement aujourd'hui? Vous êtes un conservateur?
Well, I think as a serving officer, I think I saw myself as really apolitical, standing away from politics,
vraiment,
although my own sort of cultural leanings were towards conservative values.
Déjà, en tant qu'officier en service, j'étais apolitique, c'est-à-dire que je m'impliquais pas dans les questions politiques, même si mon inclinaison fondamentale, familiale, c'était plutôt d'être conservateur, de droite.
It was only after I got out of the army that I think I really began to define my political thinking more sharply.
Et c'est en sortant de l'armée que vraiment que j'ai vraiment essayé de commencer à préciser mes opinions politiques.
I think that reinforced my inclination to see myself as a conservative.
Et ça a accentué encore mon positionnement à ce moment-là en tant que conservateur, me penser en tant que quelqu'un de droite.
À quelle époque?
In the 90s.
Non, dans les années 90.
And yeah, I think especially since 9/11. As the Bush administration has presented itself as a conservative administration, I think begun a journey away from conservatism as defined in the US today.
Mais ce qui s'est passé, c'est que depuis le 11 septembre et surtout depuis que l'administration Bush s'est posée comme le nouveau fer de lance des conservateurs de la droite, j'ai commencé un voyage dans un sens inverse, à m'éloigner en tout cas de la manière dont eux représente et incarne la pensée conservatrice, la pensée de droite américaine.
Or maybe to say it another way, that
pour dire autrement,
I still see myself as a conservative, as a genuine conservative, but the people in American politics who pass themselves off as conservatives are anything but conservative.
Pour dire les choses autrement, moi je me vois comme un authentique conservateur et ceux qui ont usurpé ce titre à la tête du pouvoir aux États-Unis, eux, ce sont des extrémistes, des radicaux.
As a Cold Warrior, I think most of us who were Cold Warriors thought that the Cold War would never end. It was going to go on forever.
Moi, je suis un Cold Warrior, c'est-à-dire quelqu'un de la guerre froide. Et comme beaucoup de ceux qui étaient comme moi, on pensait que la guerre froide ne s'arrêterait jamais.
When it did end, though,
mais pourtant, elle s'est arrêtée un jour.
I expected, or hoped at least, that the United States would now become more like a normal nation.
Et j'espérais que quand cette guerre froide s'est arrêtée, que les États-Unis deviendraient une nation comme les autres, en fait.
Normal.
Un pays normal.
Instead, when the Cold War ended, Our ambitions became greater.
Mais malheureusement, c'est avec la guerre froide qui s'est arrêtée, notre ambition est devenue encore plus grande.
What we got from the Clinton administration in the 1990s was all this rhetoric about being the world's only superpower and the indispensable nation and proclaiming our military superiority.
Et ce qui s'est passé avec l'administration Clinton dans les années 90, c'est cette rhétorique qui fait que les États-Unis étaient la nation la plus puissante du monde, le modèle à suivre, le parangon de la liberté.
In the 2000 election, I voted for George W. Bush.
Et aux élections de 2000, j'ai voté pour George W. Bush.
One of the reasons I voted for George W. Bush is because he said at that time that he supported a humble foreign policy.
Parce que j'ai voté pour lui parce que justement lui à cette époque-là en tout cas voulait une politique, une diplomatie plus humble, plus refermée sur les frontières américaines.
So I said with regard to Bush, here's a conservative who's going to be more realistic. He's going to be more careful in the way he used U.S. military power.
Et j'ai voté pour Bush en disant que voilà un conservateur qui va être plus réaliste et qui va être prendre plus de précautions dans l'usage de la force armée américaine.
Then we have 9/11 happen.
Et voilà qu'arrive le 11 septembre.
And we have a president who says that it's our purpose to eliminate evil from the world.
Et voilà que le président déclare que notre but, notre rôle est d'éliminer le mal sur la terre.
A president who says that we're engaged in a global war that for all practical purposes, is going to go on for decades.
Qu'on est engagé dans une guerre globale qui, pour tout un tas de raisons, va durer nécessairement des dizaines d'années.
And a president who has committed us to a doctrine of preventive war, which of course we then implemented in Iraq.
Et un président qui nous a apporté cette doctrine d'une guerre préventive, c'est celle qu'on a appliquée en Irak.
And so when I say that the conservatives have shown themselves to be radicals, that's what I mean.
Et quand je dis que les conservateurs sont devenus des radicaux, c'est ça que je veux dire.
We have no ambition in Iraq.
We have no ambition.
No justice, just no peace, no peace, no ambition in Iraq.
Qui a le pouvoir aux États-Unis? Est-ce que c'est l'appareil militaro-industriel ou est-ce que c'est l'administration Bush ou le pouvoir politique? Lequel des deux a le pouvoir?
Well, I mean, I think that's a very interesting and important question.
Je pense que c'est une question très importante et très intéressante.
There is no question that, as a consequence of political developments over the last 60 years, ever since the Cold War, our constitutional system has been perverted.
Je pense que depuis la guerre froide, depuis ces 60 dernières années, notre système politique a été corrompu, perverti.
And the result of that has been to create an imperial presidency.
Et ce qui a le résultat de ça, c'est ça fait une espèce de présidence impériale.
The president is unquestionably the most important actor in our political system.
Le président est effectivement l'acteur politique le plus puissant de notre système.
But even an imperial president has very limited ability actually to influence events.
Mais même un président impérial a une très petite marge de manœuvre pour influer sur le cours des choses.
I mean, this is one of the great ironies.
Et c'est ça qui est très ironique.
In American journalism, the president is frequently referred to as the most powerful man in the world.
Par exemple, les médias américains font souvent référence au président comme l'homme le plus puissant du monde.
Maybe so.
Peut-être c'est vrai.
The most powerful man in the world cannot win the Iraq war.
Mais pourtant, l'homme le plus puissant du monde ne peut pas gagner la guerre en Irak.
Probably cannot even establish order in the streets of Baghdad.
Et peut même pas probablement rétablir l'ordre dans les rues de Bagdad.
So we've got a president who can commit us to these enormous and reckless enterprises. But once we're committed, he can't really control the events that he set in motion.
Donc on a un président qui peut nous embarquer dans ces événements catastrophiques, mais une fois qu'on est embarqué dedans, il peut pas nous en sortir.
So we've been stuck paying the bills.
Nous, on se retrouve à payer l'addition.
And what that has revealed is actually how limited our power is.
Et ce que ça a montré, c'est que à quel point notre pouvoir est limité.
The Iraq war is now costing us $9 billion a month.
La guerre en Irak nous coûte aujourd'hui 9 milliards de dollars par mois.
And that is all borrowed money. It's red ink.
Et c'est que de l'argent emprunté, quoi. C'est des dettes.
The Iraq war now has stretched the U.S. military, especially the Army and the Marine Corps, to the very limits of its capabilities.
La guerre a poussé l'armée américaine, les Marines, aux limites les plus extrêmes de ce qu'elle peut faire.
I mean, the most recent example is just 2 days ago when the Secretary of Defense declared that units serving in Iraq and Afghanistan who were sent and were told you'll serve for 12 months and then come home are now told no, you're going to stay for 15 months.
Voilà, et l'exemple le plus frappant de ça, c'est qu'il y a deux jours de ça encore, le secrétaire de la défense américaine a dit aux soldats qui sont actuellement en Irak, qu'on a envoyé en Irak pour 12 mois, eh ben non, vous allez rester 15 mois.
Mais à qui rapporte ce crime?
I think that the policies that we have pursued since the end of the Cold War actually served to benefit members of the political elite.
Et c'est pour ça que, dans un certain sens, la politique qu'on a menée depuis la fin de la guerre froide profite à l'élite politique.
And certainly, there are certain corporate interests.
Et bien sûr, il y a des intérêts de multinationales qui en tirent le plus grand profit.
But the American people are not benefiting. American people are being, I think, hurt.
Mais le peuple américain n'en profite pas. Au contraire, lui, il en souffre.
But I would want to emphasize. I mean, I find the waste of money and the waste of lives to be absolutely obscene.
Moi, je trouve que ce gaspillage d'argent et ce gaspillage de vie, surtout, est absolument obscène.
But if you consider the size of the American economy as a whole,
mais si on considère la taille dans son ensemble de l'économie américaine,
I think it would be misleading to think that the money being spent to support the Iraq War is somehow keeping the American economy afloat.
Mais ça montre que c'est vraiment une erreur, je pense, de penser que tout cet argent dépensé en Irak, c'est ça qui maintient l'économie américaine à flot.
I mean, the total size of the gross domestic product or national product, I think, is somewhere in the vicinity of $12 trillion.
Oui, je crois que le PNB américain, c'est dans les alentours de 12 millions de milliards de dollars.
On était peu nombreux, je me souviens de ces militants en 2001 à Central Park, ils étaient peu nombreux à manifester à l'époque contre la guerre en Irak. Ils sont beaucoup plus nombreux aujourd'hui, au moins à travers les sondages d'opinion, à s'opposer à cette guerre. Et vous venez d'entendre l'analyse de Andrew Bacevich, prof d'histoire des relations internationales à Boston University. Tout ça pour montrer qu'un homme conservateur, un républicain, qui a voté pour Bush, qui a une longue expérience de la chose militaire, puisqu'il était colonel de l'armée américaine pendant des années, peut avoir une analyse très proche de celle de Chomsky. Alors, autre point de vue sur cette guerre en Irak, on va retrouver Mme Chomsky, ne vous inquiétez pas, si c'est pas aujourd'hui, c'est demain, on le lâche pas, mais on voudrait rencontrer ceux qui sont aujourd'hui sur le terrain, ou plutôt qui le fuient le terrain, c'est-à-dire les déserteurs. Là, on fait un saut à Toronto. Pourquoi à Toronto? Parce que c'est là que les déserteurs d'aujourd'hui se réfugient dans un mouvement, une association qui s'appelle War Resisters Campaign. C'est à Toronto, c'est une organisation qui est destinée à venir en aide aux déserteurs américains. Et qui s'occupe de cette association? C'est Lee Zaslovski, il a 62 ans, il vit là à Toronto. Et pourquoi vit-il à Toronto, cet Américain d'origine? C'est parce qu'il est un ancien déserteur du Vietnam. Ils ont été très nombreux à l'époque, entre 65 et 73, à déserter le front ou à déserter, sortir des États-Unis pour venir se réfugier au Canada. Ils furent à peu près 50 000, très bien accueillis à l'époque par le premier ministre canadien Pierre Elliott Trudeau, très chaleureusement accueillis comme des pacifistes. Aujourd'hui, les choses sont différentes, mais il y a un certain nombre de déserteurs qui se planquent au Canada. L'accueil est pas du tout le même. Stephen Harper, qui est le premier ministre actuel du Canada, n'est pas du tout, qui est un ami de Bush, n'est pas du tout aussi chaleureux. En tous les cas, c'est dans le petit bureau, dans un immeuble syndical de Lee Zaslowski, que nous rencontrons des déserteurs, enfin un déserteur, et Lee lui-même avec son bon gros bidon très sympa et ses bretelles. Et la question qu'on leur pose à tous deux, surtout à Lee qui de toute évidence est un démocrate, c'est est-ce que dans le cas où les démocrates seraient élus en 2008, ce qui est probable, il y a déjà une sorte de, on pourrait presque dire, de cohabitation actuellement à la tête des États-Unis. Est-ce que les démocrates ont une solution pour la question de l'Irak?
Well, I think it's becoming clear in the United States that there's a kind of a dual government.
C'est clair maintenant qu'il y a un gouvernement à deux têtes aux États-Unis.
On one side is the democratically elected government and so forth, and on the other side is the sort of security military industrial complex.
D'un côté, le pouvoir élu démocratiquement, et de l'autre côté, il y a le complexe militaro-industriel, sécuritaire.
And I think that what we see with people like Barack Obama and others who probably personally would love to end the war and are opposed to it, when they get into power, they'll have to face the reality that the military-industrial complex is the one that really calls the shots.
Et quand on voit des gens, des candidats comme les candidats démocrates Barack Obama, qui on sait bien qu'il aimerait, il aurait à cœur de mettre fin à cette guerre, on se comprend bien aussi, on pressent bien que si il est au pouvoir, s'il est élu, il aura très vite à faire face au complexe militaro-industriel qui lui a vraiment toute l'attitude et qui lui a la main sur le pouvoir.
Donc, mourir pour le complexe militaro-industriel, mourir pour le pétrole, c'est pas mourir pour la patrie.
We're not fighting for the United States, we're fighting for Halliburton.
Mais on n'est pas en train de se battre pour les États-Unis, on est en train de se battre pour la multinationale Halliburton.
En 1914, en France, un écrivain a dit: on croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. Et c'est Anatole France.
Fire and forget.
Lee Zaslowski, on est là dans votre bureau, dans ce petit immeuble du syndicat de la métallurgie.
Métallurgie.
C'est ça. Et sur la porte, c'est War Resisters Support Campaign, c'est-à-dire campagne d'appui aux résistants à la guerre. Sauf que vous, c'est la fois d'avant que vous avez déserté,
oui.
Comme des milliers, à l'époque, comme des milliers de jeunes Américains qui ont refusé, ont préféré venir se planquer au Canada et ont été bien reçus. Vous avez été...
Oui, très bien. Moi, je suis un déserteur conscrit en 69. Et je me suis présenté à l'armée, j'ai eu l'entraînement, et puis on m'a donné des ordres pour aller au Vietnam. J'étais opposé à la guerre au Vietnam, et donc je suis venu ici au Canada, en 70.
Mais vous n'étiez pas seul, encore une fois, il y a beaucoup de jeunes gens comme vous qui sont venus ici au Canada.
Oui, quelques 55 000, on estime. Mon job maintenant, c'est d'aider les résistants à la guerre qui viennent au Canada à cause de leur opposition à la guerre en Irak. La nouvelle génération, comme on dirait, des déserteurs de la guerre du Vietnam.
La situation est différente entre votre génération du Vietnam. À l'époque, c'était la conscription. C'est-à-dire que les jeunes gens de votre génération devaient y aller.
Oui, nous avons reçu des lettres du président des États-Unis nous disant... Vous devez vous présenter à cette date, à cette location, tout ça.
Alors, mais aujourd'hui, ce sont des engagés, ce sont des jeunes gens qui s'engagent.
Qui s'engagent, oui. C'est une conscription de pauvreté que beaucoup d'entre les Américains, les opportunités qui leur sont présentées sont si petites que leur carrière militaire leur paraît la meilleure.
Oui, c'est-à-dire qu'on parle toujours du patriotisme américain, mais la plupart des jeunes gens qui partent en Irak ne partent pas par patriotisme.
Absolument pas. L'armée leur dit, c'est une bonne carrière. Vous pouvez vous avancer, apprendre pour la vie civile. Après votre service, vous allez recevoir des bonus de quelques dizaines de milliers de dollars. Et c'est une proposition plutôt économique que patriotique.
My name is Phil McDowell. I come from Rhode Island. I'm 26 years old.
J'ai 26 ans, je m'appelle Phil McDowell et je viens de Rhode Island.
Alors, dans quelles conditions tu es parti en Irak?
Well, I originally joined the army in November of 2001. It was right after the September 11th attacks.
Je me suis engagé dans l'armée en novembre 2001, juste après les attaques du 11 septembre.
That happened and I thought, you know, this was coming to my that point in my life where I was graduating. You know, this is something that's going to be really important for my generation and I thought that by joining the army it was going to be patriotic and help me out and use my skills to do something good.
Je venais juste de finir mes études et je me suis dit voilà, maintenant je suis faut que j'aide mon pays, c'est un moment décisif et je vais peut-être apporter ce que je sais faire pour pouvoir aider mon pays vraiment par patriotisme.
Well, I signed up for communications because that was my degree, so I thought that I would be best helpful in that area.
Comme moi j'avais été diplômé en communication, je me suis engagé justement pour être dans les communications militaires.
I enlisted for 4 years. Well, I signed up in November, but I didn't start my training until that summer after I graduated for 4 years.
J'ai signé pour un contrat de 4 ans qui prenait effet après une fois que j'avais obtenu mon diplôme.
Et donc tu es parti en Irak?
I went there in March 2004, and I was there for a year until March 2005.
J'ai été envoyé là en mars 2004 pendant un an, donc je suis resté jusqu'en mars 2005.
Tu étais d'accord? Tu étais dans quel état d'esprit?
Of course, when I first signed up, Iraq wasn't even in the picture.
Mais bien sûr, déjà, quand moi je me suis engagé dans l'armée, il n'était pas question de partir en Irak à cette époque-là.
During my training is when they started talking about all these weapons of mass destruction, these links between Saddam Hussein and Al-Qaeda, 9/11.
Et c'est pendant justement toute ma formation militaire, c'est là où ils ont parlé des armes de destruction massive, de tous les liens qu'il y avait entre Saddam Hussein, Osama Ben Laden et Al-Qaeda.
And then I think most Americans did believe it, and I believed it.
Et comme la plupart des Américains, moi aussi j'y ai cru à ça, cette histoire.
And even though I was aware of the international opposition to all that intelligence, I still felt like I had no reason not to believe it.
Et même si j'étais au courant de toute l'opposition qu'il y avait dans le reste du monde à cette guerre, je voyais pas de raison de m'y opposer, si c'était vrai.
So then, when I deployed there, I went under the assumption that I was going there to find these weapons of mass destruction.
Quand j'ai été envoyé là-bas, moi, je pensais vraiment qu'on allait pour y chercher ces armes de destruction massive.
And so a few months into my tours, when I started thinking and asking questions, like, you know, what is this all about if this isn't true?
Et là, du coup, finalement, j'ai commencé à me poser des questions. Mais qu'est-ce que c'est que toute cette histoire?
So I was asking my superiors, my commanders, you know, what are we here for if all this stuff is false? And they're telling me that, you know, we're here to help the Iraqi people.
Et alors, je demandais à mes officiers, à mes supérieurs, mais alors si toute cette histoire d'armes de destruction massive est fausse, qu'est-ce qu'on fout ici? Et eux, ils me répondaient, on est là pour aider le peuple irakien.
And, you know, I was thinking, I would say, no, that's not what we came here for. You might say that now, and that might be a side effect to it, but we did not come here to help people. We came here because there were weapons of mass destruction. They knew where they were.
On est peut-être là pour les aider, mais c'est pas la raison première pour laquelle on est venu. On est venu ici pour chercher des armes de destruction massive qui nous menaçaient. Or, il n'y a pas de ces armes.
And then, at the same time, these people are telling me we're helping people. When we all go out on convoys, even though I was on the camp most of the time, we're going to convoys a couple times a week, they would tell me if a car gets in your way, no matter if it's civilian or what, you run it off the road. And it didn't work for me.
Et même si ils nous disaient on est là pour aider les gens, mais c'est pas vrai. Parce que même si moi j'étais dans la base, dans le QG la plupart du temps, il y avait régulièrement des convois, on faisait plusieurs fois par semaine des convois, des sorties, des patrouilles, et on avait comme consigne, si jamais il y a la moindre voiture en travers de la route, vous roulez dessus. Est-ce que c'est ça, aider les gens? Ça colle pas vraiment.
Come out! Open the door! Get your hands up and come outside! Come outside! Everybody in the house needs to come outside!
Voilà, ceux qui critiquent, qui mettent à nu les 6 mécanismes de propagande, Chomsky, Ederman, et ce jeune homme qui la vit dans sa chair et qui découvre ce que ça a été, puisque les questions des armes de destruction massive et du lien inventé entre Saddam Hussein et Al-Qaïda, vous vous souvenez de cet épisode. C'était un reportage avec Guy Van Til. Merci à tous, merci à Chomsky, Noam Chomsky, Bev Stoll, Andrew Bacevich, qu'on retrouvera, Lee Zaslovsky, Phil McDowell, Curry, et Catherine Louis de Lina à lire les cahiers de Lerne Chomsky, co-dirigé par Jean Bricmont et Julie Franck aux éditions de Lerne, de la guerre comme politique étrangère des États-Unis de Noam Chomsky aux éditions Agon, et le livre d'Andrew Bacevich, The New American Militarism, aux éditions Oxford University Press. À voir le film sur Chomsky, Les médias et les illusions nécessaires, de Marc Akbar. À consulter le site de Znet, Znet, ça s'écrit Znet, www.zmag.org, et le site des déserteurs américains au Canada, www.resisters.ca, comme Canada, Resisters, R-E-S-I-S-T-E-R-S. À la technique aujourd'hui, Olivier Daligo et Michel Toutain, c'est Yann Chouquet et Koyen Guyen qui ont cette émission, assistée de Charlotte Perry. Christophe Imbert attend vos messages auprès du répondeur de la base, si j'y suis, au 01 56 40 37 37. Toutes les informations sont disponibles sur le site France Inter, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur la-bas.org, la-bas.org.